dans le livre, surtout dans la première partie. Donc on retrouve les questionnements, les recherches, les hypothèses, les déductions, une démarche qui est un petit peu scientifique quand même. En tout cas, il y a beaucoup de questions dans ce livre, parce que vous n'avez pas les réponses, ou, surtout dans la première partie.
Bon, moi je suis mathématicienne, les mathématiciens sont des gens qui se posent des questions.
C'est comme ça.
Et puis aussi, je suis scientifique, hein, les scientifiques, le doute et le questionnement, c'est une méthode connue par tous les mots dans les cartes. Bon, bref, donc, c'est une méthode de travail. Je n'accepte pas qu'une chose soit bon, elle est beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'aurais pu inventer et puis dire, je ne sais pas, ils ne savaient pas bien nager, ils savaient nager, d'ailleurs, mais bon, pourquoi? Après tout, il manque des choses, on ne sait pas, on pose des questions. C'est ce que font les mathématiciens. Un mathématicien qui travaille, il écrit ce qu'il sait faire, et puis aussi, il écrit ce qu'il ne sait pas faire. Et puis ça fait des questions, puis quelqu'un d'autre travaille là-dessus après. Bon, moi je suis quelqu'un qui pose des questions et j'aime bien faire plein de questions. Et en plus, il y avait vraiment des tas de trous, en fait, il y a des tas de choses que je ne sais pas et qui ne saura jamais. Mais qui sont des questions qui valent la peine d'être posées.
Alors, dans ce livre, on parlait tout à l'heure de Pudor, mais il y a aussi de l'humour. Notamment quand vous parlez, enfin, il y a plusieurs anecdotes, il y a une anecdote qui est la façon dont son père avait choisi d'orthographier le mot artichaut, par exemple. Enfin, et visiblement, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour.
Alors là, je suis très contente parce que quand je vois que tous les journalistes font une gentillesse de lire le livre, de comprendre, d'écrire ces si beaux articles sur ce livre, on conclut que Jean-Louis Sebald est un jeune homme très drôle. Et ben voilà, c'est une histoire du livre. Ouais. Donc oui, je pense qu'en effet, il avait une bombe. J'ai par exemple, ce rapport à fait allusion à propos du mot artichaut, une des choses que j'ai exploité pour écrire ce livre, c'était les carnets du monde. C'est-à-dire, c'était les carnets des parents de Marie. Et ils se demandent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils se demandent comment ils dépensent leur argent, donc ils commencent à compter pour ce qui est gardé, où chaque jour est marqué ce qu'on achète, combien ça coûte, et puis ce qu'on a dépensé, mais bon, ça, dépenses, on faisait ça à l'école quand on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc j'ai utilisé ces carnets. Alors vous, si vous regardez ce que les gens achètent pendant le mois, tous les jours, à l'époque où il n'y a pas de frigidaire et où vous faites les courses tous les jours, vous avez une idée d'en vous. Je peux dire qu'il n'était pas des dans son père, rien comme ça. Moi, j'aurais pu m'en donner un temps été aussi, mais bon, ben. C'est pas la question. Les artichauts, là, les artichauts. Donc, il achète les artichauts de temps en temps. Et il écrit artichauts, des fois à la UX, des fois à l'UDS, chaud, là. Les artichauts, c'est chaud, là. Il y a des tas de marmillances de l'orthographe du mot artichaut, mais je trouve ça assez touchant. On n'est pas en train de parler d'un martyr, d'une cause, ou comme ça, on est en train de parler d'un gars qui fait ses courses, qui fait qu'il a écrit de l'artichaut. Et lui, ça lui a rigolé de l'écrire l'artichaut, ça fait toujours de la même façon, et il le fait. Voilà, bon, je pense que voilà.
C'est vous aussi, vous mettez des mots, enfin, il y a une autre méthode que j'ai trouvée assez rigolote, c'est l'échelle E. Donc c'est toujours par rapport à ces carnets de compte, vous essayez de comparer le niveau de vie, ils sont représentés les salaires de l'époque aux salaires d'aujourd'hui, donc il faut trouver une valeur. Donc l'échelle, ce n'est pas l'échelle cigarette parce que ce n'était pas pertinent, c'est l'échelle E. Donc là aussi, on retrouve dans le sens de l'humour, on va être le vôtre, du coup, et donc voilà, c'est pas du tout un récit. Si on parle aussi littéraire, si vous aimez. Et donc, vous aussi, visiblement, vous avez hérité du sens de l'humour de votre père.
Bon, les yeux, c'est un truc qu'on avait inventé quand on était jeune. On allait en vacances dans des pays étrangers. Je me rappelle notamment une fois à Budapest. Donc, c'était dans les années 70, j'étais très jeune. Et les gens, on rencontrait des gens de notre âge. Et nous, on allait en faire. Et puis, ils nous demandaient. Quel est le pourcentage de votre salaire que vous en dépensez pour manger? Il y a peut-être des chats de gens, quand même, assez biaisés, donc vous n'avez pas répondu à cette question. C'était des grands moments de ma vie de ne pas savoir répondre à cette question. Alors, après, j'ai essayé de comparer ce qu'on gagnait, ce qu'on mangeait, etc. On avait trouvé, c'est comme ça qu'on a, c'est à ce moment-là qu'on avait inventé les chefs que j'avais. C'est un truc qu'on avait inventé avec des amis et moi, les chefs eux, pour regarder ça. Alors, bon, maintenant, c'est vachement facile, vous avez des sites internet qui vous disent exactement combien ça vaut et ça, mais c'est pas très rigolo, quoi. Alors, j'ai regardé les chefs eux, mais j'ai aussi regardé les chefs cigarettes, parce que mon père est un grand fumeur, enfin, un fumeur, et il a acheté un paquet de cigarettes tous les jours, c'est dans le carnet. Et je me suis aperçue que la vie était devenue très dure pour les fumeurs parce que les chefs cigarettes, c'était plus possible. Les chefs eux sont bien assez pertinentes en fait. Et d'ailleurs, j'ai un économiste qui a lu le livre et qui m'a envoyé un mail pour me dire que Barbie l'avait regardé et qu'on devait se marcher bien. Donc j'ai essayé de compter ce qu'il gagnait en nombre d'œufs et de le traduire en euros maintenant, en regardant le prix des œufs aujourd'hui.
Et alors, aujourd'hui, votre père, donc vous décédé, appartient à l'histoire avec un grand crash, on va dire. Est-ce que vous avez eu la sensation, est-ce que vous avez déjà eu la sensation qu'à quelque part, cette grande histoire, vous avez un peu volé votre père?
C'est une très mauvaise question, ça va pas.
D'accord. Et alors, on parlait la dernière fois des archives. Alors justement, il y a du nouveau, les archives ont été ouvertes, vous disiez comment...
Oui, voilà, là on va revenir dans la grande histoire, comme disait Lucas. Je ne sais pas si vous mesurez, mais la grande chance de ce livre a été qu'il est arrivé dans les rédactions des journaux, au moment même où François Hollande rendait hommage à Maurice Leblanc, forcer les journalistes à parler de la Ferrorin au mois de décembre dernier. Donc, le service de presse des éditions d'Elma, aidé par François Hollande, a fait que le livre a eu un grand retentissement parmi les journalistes qui sont intéressés, qui ont voulu clairement parler. Donc, je suis très contente de ça. Mais en même temps, ça veut dire que, en effet, il y a eu cet hommage par rendu François Hollande qui est. Très symbolique, mais moi je suis attachée au symbole, donc je trouve ça bien. Je le dis, même si c'est un peu minimal, mais quand même je trouve ça bien. Et surtout, il y a une volonté du pouvoir politique, au pouvoir en ce moment, d'en finir avec cette histoire, clairement. Donc en particulier, M. Le Drian, le ministre de la Défense, a donné des archives à ma mère. Le ministère de la Culture envoie les archives, elle a les contacts, elle peut demander les archives ici ou là. Donc bien entendu, il n'y a rien dans les archives. Il n'y a personne qui a écrit un rapport disant qu'il avait assassiné mon père quelques jours à telle heure. Mais quand même, c'est quand même intéressant et je suis contente qu'on en parle parce qu'il y a aussi des témoins vivants, des militaires. Qui savent exactement ce qui s'est passé, qui sont encore vivants et qui pourraient peut-être parler si on leur demandait de faire. Voilà, je pense que en effet, le pouvoir politique, le ministre de la Défense et le président de la République, après tout, les chefs des armées, pourraient certainement demander à M. Sarnes ou M. Gérard Larcher, dont on avait des funestes sur le ministre de l'Observateur, a de raisons de penser que c'est peut-être lui qui a été effectivement l'assassin de mon père. Ces gens-là sont vivants et peut-être on peut leur demander de dire ce qu'ils ont fait. Ils mentiront, ils pensent. Voilà. Vous avez répondu ?
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Est-ce qu'il y a prescription ?
Oui, bonjour.
Alors, on va reprendre les questions et alors.